Vous avez pour habitude d'entendre dans la potion chaque semaine eh bien, des préceptes, donc des leçons sur le branding, l'image de marque, etc. Mais cette semaine, on a décidé de refaire un épisode un peu particulier puisqu'on va revenir sur une étude de cas d'un projet qui s'est révélé être un total échec.
Ouais, tu pouvais pas mieux dire de ce projet qui est un projet qui date de plusieurs années déjà.
Oui.
Déjà, c'est rassurant puisqu'on a fait du chemin depuis. On fait moins d'échecs aujourd'hui.
Oui, parce que c'est un projet client. Mais justement, ça nous permet de pouvoir revenir avec du recul et de manière plus objective sur ce qui n'est pas allé.
Oui, de manière humble, voilà, oui. Savoir remettre en cause ce qu'on n'a pas su faire et vous serez juge au final de savoir si c'était vraiment de notre faute ou de celle du client. Alors, le projet, concrètement, c'était une application de livraison de plats à domicile. Déjà, c'est un projet plutôt original.
avec de la concurrence.
Avec de la concurrence très sérieuse que vous connaissez, hein, déjà avec Uber Eats, Deliveroo, etc. Mm-hmm. C'était avant le Covid, bien évidemment. Donc, ça avait peut-être moins d'impact qu'aujourd'hui. Mais déjà, bon, ces plateformes étaient déjà bien implantées. Alors, comment on fait ? Voilà, comment on fait quand on veut lancer ce genre d'application ? On s'adresse déjà à une équipe qui va vous aider à monter ce projet. En général, c'est plutôt des gens qui sont spécialisés dans le marketing. Et ensuite, on s'attaque à la partie de branding, en fait, à la partie marque et à sa concrétisation. Donc, c'est plutôt des gens comme nous qu'on vient voir.
Mais...
Donc, vas-y,
mais j'ai envie de dire un petit mais, c'est que avant d'aller vers ces personnes, il y a quand même un travail à faire en amont qui s'appelle le business plan.
Oui, c'est ça.
Alors, et là,
m'as coupé l'air sous le pied. En fait, ils sont venus vers nous et en pensant que ce travail avait été fait, il s'est avéré qu'il n'avait pas été fait. Voilà, donc voilà. Pas de business plan.
Voilà. Donc après, on peut se demander. D'où je pose la question, pourquoi est-ce qu'on a accepté de travailler avec eux ?
C'est une bonne question. Parce que déjà, je pense qu'on était quand même emballé par le profil de ses clients. C'était un projet qui était vraiment excitant parce que c'était un projet vraiment complet. Malgré la concurrence, il y avait quand même quelque chose de beau. Mais le problème, oui, c'est que ce business plan, voilà, on en discute beaucoup, j'entends beaucoup aussi sur d'autres podcasts, oh mais le business plan, on en parle tout le temps, c'est un peu bullshit. Pas vraiment, si tu planifies pas un minimum. Alors maintenant, il y a des nouvelles méthodes, tu sais, où tu vas lancer plein de petits business, tu vas faire un peu, c'est un peu un pari sur l'avenir, et tu vas voir si l'un d'eux prend, tu vois. C'est des choses qui se font beaucoup, mais dans le cas où tu vas investir vraiment de l'argent où tu as une idée assez forte et que tu veux la concrétiser, je pense que un business plan, c'est quand même vital.
Surtout là, dans notre cas, parce que du coup, ce client est venu vers nous juste, entre guillemets, pour cette identité... Même pas d'identité visuelle. Enfin, il n'y avait pas d'identité, c'était vraiment juste pour la création de l'application en fait, et du site. Mais du coup, sur quoi est-ce qu'on se base si on n'a rien dès le départ, s'il n'y a pas eu de réflexion qui a été faite en amont
Oui, c'est ça. On nous soustrait une palette, on va dire, mentale qui va nous permettre de développer cette identité visuelle. Ou dans le cas où on fait une plateforme de marque, ce qui n'était pas le cas en plus ici,
oui.
Puisque ce client a voulu directement créer l'application... sans identité visuelle aussi, c'est un autre point.
Dans ces cas-là, c'est aussi notre rôle justement à chaque fois hein, de conseiller la aussi, personne, voilà. Le client, de lui expliquer tout l'intérêt et toute l'importance de travailler tout ça, ce qui a été fait, mais c'était volontaire de... le client ne voulait pas en fait faire ce travail parce qu'il y avait un autre problème, c'était un gros manque de budget aussi.
C'est ça, alors voilà, c'est aussi l'autre point. Quand on n'a pas de budget, on va essayer de prioriser, je pense. Et effectivement, l'application, sans l'application, il n'y a pas de projet. Donc, ce client a mis tout l'argent dans ce site application. Mais du coup, bah, les fondements, les fondations étaient quelque peu bancales.
Surtout qu'un site ou une application, on l'a déjà dit, mais c'est vraiment un point final, en fait. C'est un outil. Donc là, dans leur cas, c'est vraiment un outil pour pouvoir aller travailler directement avec leurs clients et faire le lien entre eux. Mais comment est-ce qu'on communique avec le client? Comment est-ce qu'on lui parle? Quel ton on prend? Quel univers on crée? Déjà, à qui est-ce qu'on parle? Enfin, tout ça, c'est des choses qui n'ont pas été définies. Donc, voilà. Dans ce cas-là, c'était assez compliqué, même pour nous, en tant que designer, pour réussir à trouver un ton, une direction.
Et est-ce qu'avec du recul, aujourd'hui, tu accepterais ce genre de projet?
Non, je ne pense pas.
C'est méchant, ça, quand même. Écoutez, vous n'êtes pas assez bien pour nous.
C'est toujours compliqué, surtout dans ce cas-là. Après, là, c'était un parti pris aussi, peut-être, de notre part. C'était un risque à prendre parce que c'était un projet pour notre client qui était un peu un projet annexe.
Oui, 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 c'est vrai, je m'en souviens.
Le client en question avait déjà un travail à côté et il lançait ça un peu en passe-temps et voir si ça fonctionnait.
Oui, c'est ça surtout, je pense. Oui, je pense que c'est pour ça qu'on a vraiment accepté.
Parce que si ça, c'était une question de vie ou de mort, je pense que là...
C'est jamais une question de vie ou de mort.
Évidemment, mais...
un projet, mais c'est vrai que là, c'était... Ouais, bon, on s'est dit, plutôt que d'aller flamber tout son argent à Deauville, ça peut être bien aussi de tester un projet de ce genre.
C'est une prise de risque de sa part, quoi.
On l'a accepté parce qu'on ne savait pas vraiment que c'était perdu d'avance totalement. Mmh. Après, on fait confiance aussi à l'instinct des clients, s'ils ont vraiment envie de concrétiser un projet et se disent qu'il y a vraiment quelque chose à faire. On n'est pas non plus omnipotent, on ne sait pas tout, on ne voit pas tout, et on peut ne pas sentir à la mesure que sent le client les choses.
Surtout qu'il y a aussi autre chose, d'ailleurs on l'avait peut-être aussi déjà conseillé ou évoqué, mais encore une fois, rien n'est jamais fixe. Même si vous lancez un projet, vous avez un petit budget et vous lancez, vous avez vraiment pas le choix, vous devez mettre ce budget dans juste votre site ou l'application. Rien ne vous empêche ensuite, dès que vous avez un peu débloqué un peu d'argent, que vous avez commencé à faire un peu de chiffre d'affaires, de réinvestir cet argent et de réutiliser pour peut-être revoir un peu tout le travail qui n'a pas été fait en amont, quoi.
Ouais, c'est quelque chose qui... mais du coup on perd de l'argent au final, parce que si on le fait au début, on le fait bien, on fait toutes les étapes dans l'ordre, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de refaire un travail. Parce que si tu, par exemple, tu as passé l'étape de marque, de plateforme, que tu crées une identité et un site et que tu te rends compte en retravaillant du coup cette plateforme que l'identité ça va pas, il faut refaire aussi l'identité. Donc on va peut-être résumer.
C'est souvent le cas, juste pour revenir sur ça, c'est souvent le cas parce que du coup, on se rend compte que la cible qu'on visait avec l'identité qu'on avait à ce moment-là, elle correspond pas. Et encore plus dans leur cas, parce que ça, c'est un de leurs problèmes, c'était que, comme on l'a dit, on n'avait pas de travail sur l'identité visuelle. Le client avait son logo, qui avait été fait par lui-même, sans du coup aucune recherche en amont et sans considération même technique pour du web. Donc il y avait pas mal de problématiques aussi à cause de ce logo, mais...
Ouais, c'est ça. Alors, comme je le disais, on va résumer jusqu'ici. Pas de business plan, donc à qui on s'adresse? Est-ce que le projet est viable, surtout financièrement? Parce que du coup, quand on a mis tout son argent dans l'application, on se rend compte que ensuite il faut faire ce qu'on appelle un déploiement de la marque. C'est-à-dire que il faut sûrement imprimer des flyers, il faut sûrement faire des publications sponsorisées sur Internet, sur les réseaux. Il faut sûrement aussi approcher la presse. Par exemple, pourquoi pas participer à des podcasts qui, contrairement à la potion, sont payants souvent. Les gens ne le savent pas, mais on paye un intervenant, souvent paye pour participer à un podcast, et souvent c'est un encart pub.
Oui, voilà, c'est ça, c'est
pour,
ça.
Pour la marque, voilà. Donc, et voilà, c'est notre fierté. Vous pouvez être invité sur la potion.
Mais justement, j'allais revenir vite fait sur ce que tu disais, même par rapport aux réseaux sociaux, pour pouvoir créer de la pub, même sur Instagram ou Facebook, il faut avoir une certaine stratégie quand même de content marketing ou une stratégie des réseaux sociaux. Mais pour ça, bah, pour avoir cette stratégie, il faut évidemment savoir à qui on parle. Donc c'est toujours la même chose en fait, c'est un peu un cercle vicieux.
Mais tu m'as empêché de résumer, du coup oui, pas pardon. De business plan. Voilà, est-ce qu'on répond à un vrai besoin ? À qui ? Financièrement, comment on s'en sort ? Ensuite, bah, pas vraiment de travail de marque, du coup, parce qu'il n'y avait non plus pas de plateforme. Donc pas de ton de voix, tout ce genre de choses, pas de définition un peu de ce qui les différencie, de leur mission, de leur valeur, tout ce genre de choses qu'on a l'habitude d'entendre.
Chose d'ailleurs qui, dans leur cas, désolé, je te coupe à chaque fois que tu veux résumer, mais dans leur cas, aurait pu être important.
Parce qu'il y a trop de choses à dire.
Parce que quand on a beaucoup de concurrents, et des gros concurrents comme là, Uber Eats ou Deliveroo, bah, c'est important de bien définir ses valeurs et sa raison d'être pour pouvoir bah, justement se démarquer.
Oui.
Et pouvoir établir quel est son point de différenciation. Là, dans leur cas, par exemple, c'était des valeurs aussi plus locales. Bah, c'est des choses qu'il fallait mettre peut-être en avant.
Alors, c'est ça. On va rentrer un peu plus précisément sur le sujet. C'était une application de livraison de plats à domicile, mais qui se distingue des applications classiques, puisque ce n'était pas que du fast-food.
Oui.
Ou des plats, voilà, de...
Plutôt de traiteurs.
Voilà, ce genre de choses. Voilà. C'est des choses plus, un peu plus haut de gamme. Donc déjà, on n'est pas sur la même cible. Ensuite, du coup, on est sur une localité précise. Donc ça ne fonctionne pas exactement pareil qu'une application classique du type Deliveroo, etc. Donc voilà, il y a des différences et il faut en prendre compte. Du coup, pas d'identité visuelle non plus. Donc bah, ça s'est ressenti sur les réseaux sociaux. Une différence de couleur entre le site, les posts Insta, les posts Facebook, le flyer, etc., etc. Les newsletters. C'était le drapeau LGBT là. C'était toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y avait vraiment de tout. Alors c'était coloré, c'était épicé, c'était plein de saveurs, visuellement. Mais malheureusement, bah du coup, on a du mal à tout simplement mémoriser la marque. Bah,
on se perd. En fait, c'est ça, on ne peut pas s'identifier, on ne peut pas se mémorer. On va voir un flyer, par exemple, on va vous distribuer un flyer dans la rue. Ensuite, vous allez sur voir une pub sur Facebook. Vous n'arriverez pas finalement à faire le lien entre les deux, quoi. Pour vous, ce sera peut-être deux services différents, vous n'allez pas
Ouais. Surtout que le logo n'était pas très joli. Malheureusement, on n'a pas pu travailler dessus non plus. Pas lisible, comme tu en as un peu parlé, sur les réseaux sociaux, pour le web. Un logo très mal lisible, en petit très mal lisible, même sur les flyers à certains endroits ça passait super mal. Ça passait super mal, donc du coup là on est au-delà du fait de pas non plus pouvoir reconnaître la marque facilement, on dénote quand même d'un certain manque de professionnalisme quand même. Ça fait quand même très très amateur, malheureusement.
Malheureusement,
malgré la qualité des plats.
C'est ça ce que j'allais dire. Et là, du coup, parce qu'il n'y avait pas ce travail qui a été fait, mais on était quand même sur une clientèle qui se voulait peut-être un peu plus aisée que celle qui utilise habituellement les plateformes de livraison. Et du coup, bah, ça dénotait en fait complètement avec cette idée, cette cible. Et même le fonctionnement, enfin voilà, qui avait été mis en place pour les livraisons, peut-être était problématique aussi.
Ouais, là, ça fait beaucoup de problèmes à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Voilà. Donc, encore une fois, on va résumer simplement la partie marketing, donc tout ce qui est business plan, c'est super important. Rappelez-vous-en toujours, toujours. Vous pouvez vous faire accompagner par des structures telles que le BGE, si vous êtes, par exemple, un indépendant, vous voulez lancer une petite marque. Il y a des structures qui vous aident à définir ces business plans. Après, petit hack, petit cheat code de vie, vous pouvez aussi vous adresser à des étudiants qui pourront, parce qu'ils auront besoin de s'entraîner, vous feront un business plan, en tout cas une ébauche de business plan avec vous, qui vous permettra voilà, déjà de dégager certains angles, si vous n'avez pas vraiment de budget. Après, encore une fois, donc partie marketing, ensuite partie branding, plateforme de marque, vraiment... Donner cette personnalité à cette marque. Imaginez votre marque comme étant une personne qui va s'adresser à votre cible. De quelle manière elle s'adresse à cette cible, en quels termes. C'est pareil, sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas vraiment de stratégie. Du coup, pas vraiment de régularité.
Oui, pas de discours, non, aussi.
Ni discours, ni concept. on n'apporte rien de plus. On en a déjà parlé maintes et maintes fois, mais de simplement poster des plats, enfin, des photos de plats sur leur Insta, ça ne sert à rien. Bah, ce qui, les gens s'en fichent.
Et le problème, c'est que de faire, par exemple, d'Instagram, hein, juste un encart publicitaire,
c'est ça, une vitrine.
Bah, ça n'a aucun intérêt.
Alors ça, c'était c'est apparu en 2006, 2006, je crois, Instagram. Enfin, bref, c'est plus du tout ça. Il faut apporter un contenu de valeur. Faites des recettes. Si vous êtes dans ce cas-là, faites des recettes. Faites, je sais pas, c'est plutôt éducatif ou des choses waouh, quoi, comme on dit souvent.
C'est une façon de montrer quelle solution on résout, quel problème on va essayer de résoudre avec notre produit
c'est
aussi.
Ça. Oui, après, faire un peu de storytelling sur les gens qui composent l'entreprise, comment. Sur la personnalité des gens
et
qui la composent.
Valeurs,
c'est vraiment des choses super importantes. Donc voilà, donc, je le disais, donc branding, identité visuelle, super important pour vous reconnaître tout simplement. On n'est pas là pour vous dire qu'il faut absolument avoir un truc léché et magnifique. C'est vraiment quand on a, je pense, atteint un certain palier. Mais déjà, voilà, pour être identifiable, avoir des codes visuels bien définis. Mmh. Et ensuite, le déploiement de la marque, voilà, faire les choses bien dans l'ordre. Que ce soit en termes de communication, de présence, de relations presse, il y a plein de choses à faire. C'est vraiment les quatre grandes étapes, tout simplement. Oui. Et si vous n'avez pas un budget énorme, priorisez, faites faire certaines étapes de manière peut-être un peu moins approfondie. Je sais par exemple que nos amis de La Racine, pour ceux qui n'ont pas forcément veulent pas forcément mettre les budgets ou n'ont pas les budgets pour une plateforme vraiment en bonne et due forme, propose par exemple de faire des workshops. C'est-à-dire que pendant une journée ou deux, nos amis de La Racine se posent autour d'une table avec le client et on essaye de dégager les angles, de revenir sur le business plan, sur la plateforme, une espèce de débauche de plateforme pour vraiment...
Pour les aider à lancer le... Mais d'ailleurs, aussi, pour revenir sur ça... Si vous vous posez la question, parce que souvent vous pouvez vous poser cette question, oui, mais pour moi, qu'est-ce qui est important ? Ça, vous n'êtes pas forcément obligé de le définir par vous-même. Demandez conseil, essayez de vous entourer quand même d'experts des secteurs afin de pouvoir avoir bien leurs conseils à chacun et réussir à voir pour vous. Quel est le plus important ? C'est eux qui vous aideront, tout simplement.
Alors, soit avoir des gens autour de soi qui ont des compétences complémentaires.
Oui.
Les gens sont très... Je suis toujours surpris de la réactivité des personnes, des experts sur LinkedIn. Demandez conseil. Vous pouvez demander et vous verrez que vous aurez un taux de réponse d'au moins 80% des gens qui vous donneront des conseils. De manière totalement gratuite.
Rares sont les personnes qui ne répondront pas.
Oui.
Et même si y a un pourcentage de non-réponses ou de réponses négatives, c'est pas du temps de perdu, quoi. Mm-hmm. Vous aurez tout à gagner à demander conseil, à aller chercher l'information auprès de personnes qui l'ont déjà, en fait.
C'est ça, qui sont déjà passés par là. Et c'est un peu aussi le but de cet épisode. Voilà, c'est aussi de vous montrer côté nous, studio de design, ce qu'on peut vous apporter sur ces leçons, cette leçon d'échec, en fait.
Dans cette même veine, si vous connaissez d'autres personnes qui ont aussi lancé des projets d'entreprise, n'hésitez pas aussi à leur demander conseil sur certains points plus techniques, administratifs ou autres. Mais voilà,
on a déjà parlé de ça, en plus.
Vraiment
entourez-vous.
Pas être seul, quoi.
Donc je disais des experts qui ont des compétences complémentaires, mais aussi attachez-vous à un mentor si vous pouvez. C'est super important et je pense que beaucoup de personnes seraient d'accord pour vous prendre sous votre aile aussi. Vraiment, allez voir les gens qui ont monté ces marques qui sont à peu près similaires à la vôtre et demandez conseil. Vraiment, c'est quelque chose qui vaut le détour. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas...
Après, juste quand même, vous n'allez pas forcément voir le concurrent parce que votre concurrent, il va tout faire pour vous enfoncer.
Ah oui, je ne dis mais pas que tout le monde est bienveillant. Attention.
Faites attention quand même.
Mais bon, si c'est de manière... si vous ne leur prenez pas tout leur temps, tout leur agenda, je pense que ça se passera plutôt bien. ni non plus ses parts de marché. Il ne faut pas prendre le temps et les parts de marché.
Et voilà, c'est ça.
Donc je disais, si... Bon, manque de budget, voilà, priorisez et faites faire certains points, malheureusement. Voilà. Pas l'idéal, mais c'est déjà ça, en attendant de débloquer des fonds. Et si vraiment les fonds sont vraiment insuffisants et que vous avez affaire à une agence ou à un studio... qui a une certaine éthique professionnelle, ils vous diront que ce sera un peu de l'argent jeté par les fenêtres. Alors on pourrait se dire, mais Miguel, vous auriez dû le dire aussi, vous aussi. Bah écoutez, c'était pas totalement perdu, parce que moi je trouve que ce projet qui n'est pas, qui est un échec temporaire, c'est une bataille, mais pas la guerre qui est perdue. Ce projet a quand même des choses à faire devant lui, parce qu'il a cette plateforme quand même qui est technique, ce site, cette application aujourd'hui. Bon, évidemment, on a gardé l'anonymat pour pas porter de tort à cette marque, mais évidemment, cette plateforme n'est pas, enfin, elle existe, hein, le travail a été fait. Bon,
et justement, c'est une question que j'allais poser.
Il n'y a rien de perdu sur ça.
C'est est-ce qu'on peut dire que c'est complètement fichu? Non. Enfin, quand on commet une erreur, rien n'est impossible. On peut toujours se relever. Hein. On apprend de ses erreurs, on apprend autrement. Après, c'est sûr que si vous avez mis un certain budget pour un projet, là, dans ce cas-là, comme tu le disais, il y a quand même, d'un point de vue technique, il y a le site, tout ça, donc ils peuvent le réutiliser. Il y a rien de perdu d'un point de vue financier.
C'est ce que je voulais dire.
Mais c'est vrai que si, par exemple, à contrario, il y a un budget qui a été mis dans une identité visuelle.
Oui, voilà. Et qu'on devra la changer totalement.
Mais qu'il faut la changer, là, c'est de l'argent perdu. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce que vous ne pourrez pas réutiliser le travail qui a déjà été fait. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver, comme tu le disais, les choses à prioriser.
Et c'est un axe, c'est un bon axe de priorisation, c'est-à-dire les choses qui ne risquent pas trop de bouger aussi, prioriser aussi dessus. Donc là, dès que l'application et le site sont faits, et c'est pas très compliqué ensuite de changer quelques couleurs sur le site ou le logo. Hein. C'est pas ça qui va fondamentalement tout vous faire recommencer. Donc voilà. Alors, peut-être qu'après cette discussion, on pourrait se dire, mais est-ce qu'on est vraiment fautif ou pas? Je n'en sais rien. Moi, je pense pas trop.
Dans ce cas, on a
monté. En tout cas, j'ai réussi à dormir après. J'ai réussi à dormir les nuits qui ont suivi.
J'ai envie de dire non, parce que on les avait quand même avertis. On a quand même une discussion au sujet. On leur a dit comment faire les choses. Voilà. Après, c'était une prise de risque. On savait qu'il y avait, pour ce client en tout cas, pas vraiment de risque financier très élevé non plus. Parce qu'il y avait son travail à côté, etc.
Oui.
Donc, voilà. Après, les choses n'ont pas été faites complètement.
Après, on a eu l'occasion aussi de rediscuter avec ce client de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Oui. Et ils ont bien compris, en fait, que ce manque de budget et que ces étapes qui ont été passées leur ont porté du tort. Et c'est des choses qu'ils ont corrigées en partie. Hein, et du coup, qui les met sur une voie plus sereine aujourd'hui. Et de toute manière, comme on le dit toujours, une marque, c'est en perpétuelle évolution. Il faut retravailler, s'adapter toujours aux nouveautés du marché, aux changements aussi de cible. Mm-hmm. En tout cas, au changement de la cible elle-même, pas forcément d'une autre cible.
Et écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Mm-hmm. Là, surtout quand on lance un nouveau produit, là, en plus, comme il y avait un peu certaines particularités techniques au niveau des livraisons, etc., pas hésiter aussi à comprendre vraiment les vrais besoins de votre cible et de vos clients pour pouvoir adapter votre offre en fonction aussi.
Exactement. Voilà, donc je pense qu'on peut tirer une belle leçon de cet échec total. Surtout, ne passez pas ces étapes qui sont super importantes du business plan, vraiment. Oui. Moi, je pense que c'est le plus important.
On est obligé de passer par là. Quand vous lancez une marque, une entreprise, peu importe, vous êtes obligé de voir sur le court, moyen et long terme, en fait, pour pouvoir avancer et vous projeter, etc.
C'est ça. Donc, le plus important, le business plan. Ensuite, vraiment, la plateforme de marque. Et après, pour nous, pauvres designers, encore tout ce qui est identité visuelle. Mais là, en revenant sur ce que tu dis, j'allais dire quelque chose, mais j'ai totalement oublié. Voilà.
D'accord. Belle conclusion.
Voilà, c'est une belle conclusion. Si, je me souviens. Je me rappelle. Parce qu'on disait au tout début... Cet épisode ne va jamais s'arrêter. Je disais au début que certains disent aujourd'hui que le business plan, ça ne sert plus à grand chose. Enfin, ça n'a jamais servi vraiment. C'est parce qu'aujourd'hui, on peut lancer des projets de manière dématérialisée. C'est ça aussi. Oui. C'est qu'aujourd'hui, on peut lancer des business en faisant simplement un compte Insta et un site internet. Ça coûte pas grand-chose. Mmh. Et bah là, ouais, évidemment, bon, t'as envie de tester un truc, tu sais, t'as un peu les compétences, tu fais ton site, et t'as pas besoin de faire de business plan. Force, enfin, c'est mieux, évidemment. C'est absolument vital si on veut être sûr de s'assurer que ça fonctionne. Mmh. C'est vrai que, bon, c'est pas... J'ai envie de dire, c'est pas... Je comprends pourquoi ils disent ça.
Oui. Mais c'est vrai que quand on ne vend pas un produit...
Il
n'y
a pas de perte.
Quand...
Oui, ouais, voilà. Y a pas de danger, vraiment, de gros danger. Et mais un business plan, c'est pas une assurance non plus.
C'est ça.
C'est pas simplement pour s'assurer qu'on ne va pas perdre d'argent, c'est aussi pour s'assurer que ça va fonctionner.
Qu'on va en gagner, quoi.
Voilà, donc bon, oui. C'est des choses qui sont à faire. Hein. Mm-hmm. Si ça existe, c'est pas pour rien. S'il y a des gens qui étudient pour... C'est pas pour rien. Si les grandes entreprises le font, c'est pas pour rien.
Donc oui,
les
ça peut être...
Les gros qui vous diront, oui, ouais, non, mais pas besoin. Faites ouais. Non, mais attendez, sortez de votre zone de confort. prenez des risques. Apple, ils ont commencé dans un garage. Est-ce que vous croyez qu'ils ont fait un business plan? Écoutez, ça, tout ça, c'est de la légende. Évidemment que ça a commencé dans un garage parce qu'ils ont bidouillé des choses. Mais ne vous leurrez pas, hein, c'est très construit tout voilà. Ça. Hein. Aujourd'hui, si vous allez en interne dans les équipes marketing d'Apple, ou etc., je peux vous dire qu'il y a des grosses machineries, des grosses têtes, des grosses choses qui sont mises en œuvre. C'est pas sur un coin de table.
Donc on sait, ça peut être, comment dire, un peu ennuyant, en tout cas une petite souffrance quoi, au lancement de se plonger là-dedans, parce qu'on a envie, souvent aussi quand on se lance, hein, être directement dans le concret. Mmh. Il y a de ça aussi. Après, c'est un peu le problème peut-être de nos générations, c'est qu'on veut aller trop vite, c'est qu'on veut tout de suite, voilà, que les choses fonctionnent sans avoir rien fait, voilà, tout de suite. Mais ouais, non, il y a.
Ah non, mais là tu parles d'or, hein, j'ai envie de te dire. Mais ouais, mais malheureusement, c'est comme ça. C'est même un test de vérité. Est-ce que celui qui peut embrasser toutes ces difficultés, qui ne peut pas embrasser toutes ces difficultés, sera capable aussi de mener à bien sa barque, la barque de sa marque? Ça, bah, je pense que c'est une bonne chose. Hein. Si déjà on passe pas ces premiers tests, c'est un peu comme, tu sais, à la Légion étrangère, il y a un petit premier test d'entrée, on te demande de faire des tractions. Tu sais pas faire des tractions avec les bras bien tendus, c'est mort, tu peux rentrer chez toi. Et bah là, c'est la même chose. Si t'es pas capable de te pencher sur ces questions, de se projeter sur un business plan, sur une plateforme de marque, c'est que vraiment, ouais.
Surtout que bon, un business plan,
c'est pas très compliqué.
C'est pas très compliqué. Enfin, on vous demande pas non plus d'avoir une liste très détaillée et des calculs très pointus. Hein. C'est juste une projection.
Et de toute façon, vous en aurez besoin si vous voulez faire un prêt à la banque.
Aussi.
Si vous comptez débloquer des fonds ou approcher des investisseurs, il vous en faudra un. Donc, cherchez pas. On va même pas essayer de vous convaincre sur la nécessité pour la réussite de votre projet. Simplement, voilà, voulez un crédit.
Mais je pense que tout le monde sait que c'est important. Mais il faut surtout pas être feignant et vouloir reporter à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Quoi.
Ouais. Je vais faire comme Thibaut Inchep qui a dit « Rien à foutre de ta dépression ». Je dis « Rien à foutre de ta flemme de faire ton business plan, tu le fais. » Bon,
ouais,
quel,
c'est ça.
Quel dérapage de notre cher ami Thibaut. Voilà. Bon, bah écoute, c'était super intéressant cette discussion. Voilà, une petite discussion tranquille avant l'été.
D'ailleurs, vous nous direz peut-être que vous aussi, vous avez, pour certains qui ont lancé leur entreprise, commis des erreurs à vos lancements.
Ah,
alors ça pourrait être intéressant de nous dire lesquelles, peut-être avoir des retours. Et pourquoi pas, on verra, mais faire un épisode comme ça avec des personnes qui seraient prêtes à partager leur expérience sur des erreurs de parcours.
Ouais.
et comment elles ont réussi aussi à se rattraper, en fait.
La potion se transforme en hotline pour entreprises en détresse.
Non, mais ça va être intéressant de voir comment surmonter un échec, comment remonter la pente. Quoi.
On vous invite très chaleureusement à nous donner toutes ces petites... anecdotes sur Instagram, sur LinkedIn.
Oui.
C'est bien, pas d'autres réseaux. Ou par mail directement sur notre site hermits.fr. D'ici là, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En sachant que pour cet été, évidemment, vous vous en doutez, qu'on va peut-être prendre un peu de temps aussi. On va, je pense, préparer un épisode en plusieurs parties très spécial.
Mmh.
On ne vous dit pas quoi, mais ça va être plutôt cool.
Et intense.
Et intense, c'est ça, voilà. Bah écoute, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Potion. Et n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Thank you.